tour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour une nouvelle semaine de rediffusion estivale autour des questions les plus vertigineuses qui soient, sur la vie, ici et ailleurs, dans l'univers. Existe-t-il d'autres formes de vie que la nôtre? Une vie extraterrestre est-elle possible? Quand, comment et où la chercher? Pourrions-nous communiquer avec ces autres formes de vie à des années-lumière de la nôtre? Autant de questions sidérales creusées par notre invité, l'astrobiologiste, l'exploratrice Nathalie Cabrol, qui après avoir participé à la mission Mars Explorer de la NASA, dirige aujourd'hui le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis en quête de vie extraterrestre, à l'écoute de tous les signaux venus de l'espace. Une exploration qui l'amène aussi dans les milieux les plus extrêmes de la Terre, des déserts arides aux lacs volcaniques, où Nathalie Cabrol, qui n'a décidément pas froid aux yeux, aime tant plongée. Voyage aux frontières de la vie, c'est le titre de son dernier ouvrage, à la fois exploration spatiale et planétaire, mais aussi exploration de soi-même et des origines de la vie. C'est à l'occasion de sa parution en septembre dernier que nous avions eu la chance et le plaisir de recevoir en vrai, en direct, dans notre studio, Nathalie Cabrol. Autour de la question, y a-t-il une vie au-delà de la Terre et comment la chercher? Bienvenue pour établir un premier contact avec cet extrait du film Contact où Jodie Foster incarne une chercheuse de l'Institut SETI qui ressemble un peu, beaucoup à notre invité.
Le repérage ce matin d'un signal radio non identifié provenant de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti.
Quoi que ce soit, ce n'est pas local.
Position ?
Elle n'est qu'à 26 années-lumière.
Le fait de donner cette information au monde entier peut porter atteinte à la sécurité de notre pays.
Ce n'est pas un appel personnel. Nous pensons que ça peut être une annonce pour attirer notre attention.
Le président a convoqué un conseil d'urgence.
Je vais recommander au président de militariser immédiatement ce programme.
Il n'y a absolument aucune raison de penser que leurs intentions sont hostiles.
Rien ne prouve cette thèse.
Pourquoi ne parle-t-il pas notre langue ?
Nous pensons que le message contient des instructions pour construire quelque chose. Un moyen de transport.
Le transport ? La réalité, c'est que vous n'en savez rien.
Personne ne dit que ce n'est pas dangereux.
Construis la machine.
Qui est-ce qui part?
Tu es prête à donner ta vie, tu es prête à mourir pour ça. Pourquoi?
Bonjour Nathalie Cabrol.
Bonjour.
Vous êtes prête à tout, vous aussi, comme Jodie Foster dans Contact, pour partager cette formidable quête de vie extraterrestre, mais pas que, qui vous anime. Alors rappelons que vous êtes Nathalie Cabrol, astrobiologiste, vous dirigez aujourd'hui le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. Alors SETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence, excusez mon accent, un institut internationalement reconnu sans but lucratif, hein, qui cherche à comprendre l'origine de la vie dans l'univers et qui sait à en trouver ailleurs. Une quête, Nathalie, qui vous anime depuis toujours, c'est en tout cas ce que vous partagez dans cet ouvrage Aux frontières de la vie, qui vient de paraître au seuil. Vous avez notamment participé à la mission Mars Explorer de la NASA. C'est vous qui aviez trouvé finalement l'emplacement, hein, sur le cratère Gusev pour la NASA, car vos recherches sur l'origine de la vie et sur ses évolutions possibles vous ont aussi mené, ou je sais pas comment dire, ramené sur Terre dans les conditions les plus extrêmes, les plus proches en tout cas de celles de Mars, mais aussi de Titan ou d'ailleurs. Vous avez, Nathalie, parcouru le désert d'Atacama, mais aussi plongé dans les plus hauts lacs volcaniques du monde, ce qui vous a valu, soit dit en passant, le record féminin de plongée sous-marine en altitude. L'exploration, finalement, sous terre, sur terre, sous l'eau ou dans l'espace, bah vous le dites bien, c'est la première ligne de votre ouvrage, c'est votre passion, Nathalie
Cabrol.
C'est
complètement ma passion, oui. Oui, et j'écoutais à nouveau le dialogue de Contact, le pourquoi il est... C'est cette passion. Pourquoi? C'est la passion qui nous pousse. Le fait que nous allions dans des endroits extrêmes et que quelquefois, bon, bah, c'est effectivement un petit peu dangereux. On ne cherche pas le danger. Mais clairement, on travaille dans des milieux extrêmes. Donc ça vient avec le mot, ça vient avec la définition.
Et c'est une exploration, alors on l'a compris, de la vie pour en chercher ailleurs, aussi de la vie en nous, de la vie en vous, hein. Il y a aussi une quête spirituelle, intérieure, l'astronomie, la planétologie, l'exobiologie, chercher de la vie dans l'espace, c'est d'abord s'émerveiller et s'intéresser à la préciosité de la vie sur Terre.
Absolument, absolument. Et du moment où vous commencez à vous demander où, comment et où est-ce qu'on va aller les chercher, qu'est-ce que c'est, immédiatement le pourquoi derrière vient. C'est pas seulement la vie en tant que biologie, l'aspect physique, mais dès que vous posez cette question, il y a le pourquoi tout ça existe. En tout cas, c'est souvent attaché. Il y a la partie épistémologique, philosophique de la quête de la vie. Et ce questionnement, il est aussi très rattaché au fait même que, alors qu'on est parti ailleurs pour chercher des traces de vie, dans le système solaire ou même dans les exoplanètes, eh bien, on n'a toujours pas de définition de la vie ici sur Terre.
On va y venir parce que c'est complètement fou, ce ne sont que des paradoxes à chaque fois. Et il s'agit au fond de chercher d'autres formes de vie ailleurs, de chercher aussi d'autres formes de vie intelligentes. On va y venir autour de cette question centrale donc de votre vie, Nathalie Cabrol, mais j'ai envie de dire de la nôtre aussi, que vous partagez dans cet ouvrage, Y a-t-il une vie au-delà de la Terre ? Vous avez été très influencée par Carl Sagan, dont vous dirigez aujourd'hui l'institut qui porte son nom, Carl Sagan, formidable humaniste, un des fondateurs de l'exobiologie, promoteur de tout ce programme SETI de recherche d'intelligence extraterrestre, et qui commentait ainsi l'une des toutes premières images prises par la mission Voyageur de la NASA. Qu'est-ce que ça change de voir la Terre, ce petit point bleu vu d'en haut ? On écoute Carl Sagan.
There are now four spacecraft which are beyond the orbit.
Il y a désormais quatre vaisseaux spatiaux au-delà de l'orbite de Neptune et Pluton. Pioneer 10 et 11, Voyageur 1 et 2. Quatre véhicules de notre espèce qui plongent dans l'obscurité interstellaire.
Now of all those worlds, we have no indication of life.
Jusqu'à présent, dans tous ces mondes, nous n'avons aucune indication de vie. Pour moi, cela souligne la rareté et la préciosité de la Terre et de la vie qu'elle abrite. Comme vous pouvez le voir, on dirait un point, mais en fait, c'est moins d'un pixel. Vous voyez que ce point est légèrement bleu, et c'est là que nous vivons, sur un point bleu. Sur ce point bleu, c'est là que tous ceux que vous connaissez et tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui ont existé, ont vécu leur vie. C'est une minuscule scène dans une immense arène cosmique.
Just speaking for myself, I think this perspective.
Pour moi, cette perspective souligne notre responsabilité de préserver et de chérir ce petit point bleu, la seule maison que nous ayons.
The only home we have.
The Blue Dot de Carl Sagan, ce petit point bleu sur lequel nous sommes en ce moment même, et tous les humains sur Terre, et que vous explorez la Terre, sous l'eau, et vous explorez au-delà, Nathalie Cabrol.
Oui, j'écoutais avec beaucoup d'émotion la voix de Carl, une rencontre que j'ai faite en 1986, nous avons parlé longuement tous les deux, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il avait cette voix formidable, et il était surtout très patient avec ses étudiants. Je crois qu'aujourd'hui il serait un peu désespéré de ce qui se passe sur cette planète. Mais le Pale Blue Dot, ce qui s'est passé à l'époque de Carl, c'est cette vision enfin que nous avons de pouvoir regarder notre monde depuis l'extérieur. Et on aurait pu espérer que cette vision nous montre à quel point la Terre était fragile et à quel point les limites, les frontières politiques n'existent pas quand on la regarde depuis cette perspective, et combien nous sommes un. Nous sommes les enfants de cette planète, et c'est cette chose qui compte. Et c'est comme ça que nous explorons. Nous sommes exploreurs depuis le début, depuis le moment où nous étions des organismes unicellulaires. On était aussi simple que ça. On continue en fait d'être un assemblage de microbes, mais ça se voit pas. On est des microbes intelligents. Mais c'est
des microbes curieux, des microbes qui avons une curiosité de l'au-delà, de ce qu'il y a ailleurs. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme nous ailleurs,
oui,
ou pas comme nous ailleurs ?
Ça, c'est complètement en fait en nous. C'est génétiquement ancré en nous depuis le début, où cette curiosité, elle part tout d'abord de notre survie pour la vie. Survivre, ça voulait dire multiplier ses environnements. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et ça continue d'être en nous. Ce n'est pas complètement au hasard, maintenant, qu'on commence à penser à s'étendre au-delà de la Terre et de commencer à mettre des habitats sur la Lune et sur Mars. Il y a l'aspect d'exploration et de curiosité qui s'est greffé avec la complexification de la vie intelligente, comme on le dit. Mais encore que l'intelligence, c'est relatif, on pourra en reparler aussi. Mais il y a aussi le fait qu'il est très important pour nous, quelque part en nous, on a toujours ce besoin de survie. Et donc, la Terre commence à être peuplée. Il est temps de trouver d'autres habitats pour que l'espèce continue à se développer, à s'étendre.
Pour que notre espèce humaine, notre forme de vie continue peut-être ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que la vie, vous dites vous-même, à nos auditeurs, vous l'avez dit vous-même, à Nathalie Cabrol au début, c'est peut-être la plus grande question. On ne sait pas vraiment. What is life, nous rappelle à nos auditeurs Ghislain depuis Douala au Cameroun. C'était le physicien Schrödinger qui a publié cet ouvrage. Qu'est-ce que la vie ? Alors, est-ce que la vie dans les mondes extraterrestres serait identique à celle de la Terre ? Est-ce que la vie sur Terre est unique ? Avant de vous laisser répondre à Ghislain, à Douala, même question soulevée, puisque justement tout ça inspire beaucoup de monde, par le philosophe et physicien Étienne Klein, qui était récemment notre invité. Vous répondrez aux deux en même temps, chère Nathalie Cabrol.
Bonjour Nathalie Cabrol, j'ai une question pour vous. Nous ne connaissons de vie que terrestre. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer une vie extraterrestre qui serait radicalement différente de la vie que nous connaissons ? Et si oui, est-ce que cela nous obligerait à changer notre définition de la vie ?
Votre réponse, Nathalie Cabrol.
La première réponse, c'est que, probablement à l'étonnement général, il n'y a pas un consensus définitif pour une définition de la vie. Mmh. Une définition de la vie, c'est un outil en fonction de ce qu'on veut étudier. Pour le moment, on étudie la vie et on se dit « la vie fait ceci, la vie fait cela mmh. », c'est descriptif. On sait qu'il y a un transfert d'informations, on sait que la vie se reproduit, on sait qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord. Mais il n'y a pas de consensus en disant « la vie, c'est ça, point ». On ne le sait pas. On ne sait toujours pas comment les briques de la vie, ceux qui fabriquent les éléments primaires de la vie, on ne sait pas s'il y a une transition vers la vie, entre la chimie prébiotique et la vie, ou si c'est un heureux accident. Et vous comprendrez qu'il y a quand même une conséquence entre les deux. Ça, on ne le sait pas. Ce que je dis souvent, c'est qu'on doit imaginer la vie ou la définition de la vie. D'abord, savoir s'il y en a besoin, je ne pense pas nécessairement.
On peut chercher de la vie sans avoir une définition justement figée.
Dépend aussi de ce qu'on veut trouver. Par exemple, vous pouvez imaginer la vie comme une carte postale, un paysage avec des tas d'éléments dans ce paysage. Si vous voulez définir la carte postale par un des éléments, vous allez décrire cet élément et ce sera vrai dans le contexte de votre recherche. Mm-hmm. Vous pouvez aussi décrire la carte postale avec plusieurs de ces éléments, ça restera vrai dans le contexte. Ou vous pouvez essayer de décrire toute la carte postale. Donc ça dépend véritablement de ce qu'on cherche. Mais en même temps, c'est très peu satisfaisant. Ce serait tellement simple si on pouvait dire la vie, c'est telle formule chimique, tel environnement et ceci et cela. Alors, ce qu'on croit, l'astrobiologie, ce qu'elle fait très bien en ce moment, c'est décrire ce que j'appelle la plomberie de la vie. C'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le métabolisme, la reproduction, etc.
Ou les matériaux, les peut-être briques élémentaires.
Oui, voilà, les molécules organiques.
Burkina nous dit, est-ce que la vie, c'est le silicium ?
Ça va répondre à la seconde question de mon collègue. C'est dire que les éléments, les briques de la vie qui composent la vie terrestre, comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, etc., sont absolument communes dans l'univers. Il y en a partout. Et en fait, on trouve des acides aminés, on trouve des molécules organiques un petit peu partout. C'est très commun. Il y a quelque chose de supplémentaire qui est venu récemment, c'est qu'avec l'étude des exoplanètes, on a découvert des exoplanètes. Il y en a qui sont absolument étranges, sur lesquelles on ne pense pas que la vie telle que nous la connaissons puisse survivre. Mais il y en a pas mal d'autres, il y en a une certaine proportion d'autres qui ressemblent, même si elles ne sont pas similaires, qui ressemblent beaucoup à la Terre. Et ça, c'est dans un tout petit secteur de la constellation d'Orion, dans notre galaxie qui compte 200 milliards d'étoiles. Aujourd'hui, grâce à la mission Kepler et grâce à la mission TESS, nous savons que dans ce tout petit secteur d'Orion, il y a un minimum de 4000 exoplanètes qui sont confirmées. Parmi elles, une grande proportion de celles-là sont dans la zone habitable de leur étoile parente. Ça ne veut pas forcément dire nécessairement habitée, mais ça veut dire qu'elles ont, pour certaines, des conditions qui sont semblables à ce qui est favorable à ce que nous connaissons de la vie. Alors, c'est un tout petit secteur, il y a déjà 4000 étoiles. On sait que si on projette ça statistiquement, il y a environ 2 à 4 planètes par étoile dans le ciel. Quand vous regardez le ciel le soir, il y a 4 fois plus de planètes dans le ciel que vous ne voyez d'étoiles.
Ah oui.
Maintenant, si on continue statistiquement, dans le système solaire, il y a pratiquement 200 lunes pour, pour l'ensemble du système solaire. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de lunes. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on s'est rendu compte dans le système solaire que désormais, grâce à l'astrobiologie, on peut être en dehors de la zone habitable et pourtant trouver des environnements habitables. Zone habitable, environnement, ce n'est pas la même chose. Prenez l'exemple de Europa ou Encelade, elle se trouve bien à l'extérieur de la zone habitable, si on prend la définition rigoureuse, mais vous avez de l'eau, vous avez une protection, vous avez de l'énergie et vous avez des nutriments, vous avez absolument toutes les conditions qui sont en tout cas favorables à l'éclosion de la vie, telle que nous la connaissons.
Ce qui veut dire qu'il y a un nombre quasi infini de possibilités qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers.
Alors ça, c'était pour notre galaxie. Il y a des
Que pour notre galaxie.
C'est des centaines de millions, de milliards, de trillions, de trilliards de galaxies. Alors statistiquement, c'est pour ça que je dis, c'est absolument une absurdité de penser que nous sommes seuls dans l'univers.
Statistiquement, c'est une absurdité.
Mathématiquement, statistiquement, c'est une absurdité.
Et pourtant, on va y venir, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de la trouver, de les trouver, ces formes de vie. On ne sait pas si ce sont les mêmes que les nôtres ou pas. On ne sait pas si ce sont des formes de vie élaborées ou pas. Voilà pourquoi, au fond, vous essayez de revenir aux sources, à l'origine de la vie, avant de comprendre comment vous la traquez ailleurs. Vous essayez de comprendre dans des endroits, des milieux extrêmes sur Terre, que ça soit les déserts andins, que ça soit les lacs sous-marins dans lesquels vous plongez. Vous essayez de comprendre comment est-ce que la vie peut survivre, donc qu'est-ce qu'il faut ensuite chercher ailleurs dans des environnements beaucoup plus hostiles, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, ce que nous faisons est appliqué directement à la recherche de la vie sur Mars, bien évidemment, parce que c'est là où on commence à faire notre école et notre apprentissage d'espèces interplanétaires. Et chercher la vie, ça commence dans un environnement qui est assez proche de celui de la Terre. Mars et la Terre, au début de leur histoire, ont un environnement qui est assez proche, même si Mars n'a jamais été la Terre. Mais nous avons aujourd'hui suffisamment de données scientifiques pour comprendre la minéralogie de Mars il y a environ 3 milliards et demi d'années, pour comprendre son environnement, etc. Comme nous avons ces données, nous pouvons trouver ce que nous appelons des analogues dans des environnements terrestres. Parce qu'aller sur Mars, ce n'est pas simple. Comme vous le savez, ce n'est pas facile d'atterrir. Les Américains ont eu du succès, les autres un petit peu moins. Mais ce n'est pas facile. On a des fenêtres de tir seulement tous les 2 ans. Et puis, on doit continuer d'apprendre. Alors, on a les données de Mars. On trouve des environnements analogues sur Terre, on va dans ces environnements analogues. Nous essayons de comprendre non seulement quels sont les habitats possibles qui se développent dans ces environnements, quel type de vie peut survivre dans ces environnements, et encore plus important, quels sont les instruments qu'il faut que nous développions pour essayer de la détecter ailleurs.
Et quelle forme de vie étrange vous avez vous-même découvert, approché, que ce soit dans ces lacs sous-marins ou dans ces déserts en très haute montagne ?
Alors là, c'est la beauté de la chose, parce que ces endroits-là sont à bien des égards des machines à remonter dans le temps. Et quand on étudie ces endroits-là, non seulement on remonte dans le temps de l'histoire de Mars, il y a 3 milliards et demi d'années, mais comme je vous le disais, Mars était très semblable à la Terre il y a 3 milliards et demi d'années. Ça veut dire qu'aussi, nous avons un regard sur le passé de notre propre planète. Et le plus étrange que nous ayons trouvé là-bas, ce sont des organismes primitifs, évidemment, des bactéries, qui sont pratiquement les mêmes que celles du début de notre histoire et celles qui ont laissé les premiers fossiles sur Terre. Et celles-là n'ont que très peu évolué. La chose qu'elles ont faite, par contre, c'est d'évoluer une espèce de couteau suisse de l'adaptation. C'est pas pour rien si elles sont toujours là aujourd'hui, 4 milliards d'années après. Et elles sont capables de s'adapter à tout un tas d'extrêmes, comme un très fort rayonnement ultraviolet. Pourquoi ? Bon, d'abord, elles sont dans les Andes en altitude, ça s'explique là. Mais elles n'ont pas résisté à cet environnement par hasard. Il y a 3 milliards et demi d'années, il y a 4 milliards d'années sur la Terre, il n'y a pas de couche d'ozone.
Et donc, il faut que la vie tienne.
Eh bien, il faut qu'elle développe sa crème solaire. et ces organismes sont adaptés à ça. Ils sont aussi adaptés à une très grande présence de sel dans l'environnement, pour des tas de raisons aussi, qu'on retrouve dans l'histoire au début de la Terre. Ils sont capables de résister dans des sources hydrothermales très chaudes. La vie Au début de la Terre, elle est confrontée à un environnement qui est volcanique à un degré qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. La Terre est toute jeune, elle a une énergie considérable. Et en plus, pour ne rien arranger, elle est bombardée constamment par des comètes et des astéroïdes qui continuent de remuer le magma et, qui créent du volcanisme à leur tour.
Voilà pourquoi vous allez plonger dans les lacs des volcans du monde. Pour comprendre la vie, on l'a bien compris, il faut d'abord remonter à sa source et pour en trouver peut-être ailleurs aussi. Autour de la question, y a-t-il une vie ailleurs, au-delà de la Terre. On continue de s'interroger, Nathalie Cabrol, aux frontières de la vie, pour reprendre le titre de votre ouvrage. Mais pour l'instant, nous sommes à l'écoute d'un de vos groupes de musique préférés. C'est vous qui l'écrivez, en tout cas. C'est Snow Patrol et le titre « Life on Earth ».
The first snow, first winter of my life, I was told it was the height of me. The first dance, well, the first one that counted, felt like my blood was built from crackling light. All this ancient wildness that we don't understand. The first sound of a heartbeat to riots roaring on. This is not the love you've had before. This is something else. This is something else.
Snow Patrol, Life on Earth. Merci pour ce choix musical inspirant, Nathalie Cabrol. Autour de la question, y a-t-il une vie au-delà de la Terre et comment la découvrir, les découvrir, ces autres formes de vie, comment se mettre à leur écoute. Je rappelle que vous êtes astrobiologiste, directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis, consacrée à cette quête de vie extraterrestre, sur laquelle vous interroge tout de suite un autre astrophysicien qui est lui cosmochimiste, Jean Duprat, qui traque au pôle sud les traces extraterrestres des poussières d'étoiles congelées dans les glaces de l'Antarctique. Jean Duprat a une question pour vous.
Tant qu'on écoute depuis maintenant assez longtemps l'espace, dans l'espoir d'y voir, d'y entendre un signal qu'on qualifierait d'intelligent. Mais une question quand même qui est pas simple, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un signal intelligent. Si jamais on nous parle, comment reconnaître un signal qui ne serait pas un signal naturel et qui serait un signal intelligent, et où le reconnaître dans la multitude des ondes que la Terre reçoit de l'espace. Des signaux, d'ailleurs, que la Terre reçoit de l'espace.
Votre réponse, Nathalie Cabrol.
Oui, c'est une réponse, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Elle est immense, bien entendu, mais en fait, ça participe du même principe que la recherche en astrobiologie pour la vie simple. C'est-à-dire que l'on part du modèle que l'on connaît, parce que d'abord, c'est le seul modèle que l'on a et on sait qu'il fonctionne.
C'est-à-dire nous.
Le nôtre, évidemment. Mais en plus, on sait que ce qui nous, les composés de notre vie sont communs, encore une fois. Ça ne veut pas dire que la vie ailleurs, elle est semblable à nous. Mais il y a quand même, on sait que la nature a des réponses à des challenges, à des défis qui sont quelquefois semblables. On voit sur Terre même, par exemple, des inventions de la nature, comme par exemple les yeux, ont été inventées 20 fois de manière complètement indépendante.
Donc, chez différents animaux,
on peut en tout cas supposer qu'il peut y avoir un petit peu quelque chose comme ça. Mais pour la recherche extraterrestre, c'est la même chose. En fait, à l'heure actuelle, et pour commencer, nous sommes des débutants. On est une civilisation adolescente qui commence à peine à tourner son regard vers le ciel d'une manière technologique. Mmh. On l'a fait depuis des millénaires, simplement philosophiquement. Aujourd'hui, on y applique la technologie, mais c'est quand même une technologie primaire. Et pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. On écoute soit dans la radio,
dans les ondes radio,
pas cette radio-là, mais enfin un autre type de radio, ou alors dans l'optique, c'est-à-dire qu'on cherche des signaux lumineux, des signaux laser, etc. C'est un petit peu la bouteille à la mer, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Et alors, comment reconnaître un signal parmi tous les autres, et spécialement si ça vient d'une espèce que l'on ne connaît pas? C'est un commentaire d'autant plus pertinent que l'on sait désormais, grâce à l'astrobiologie, que la vie, ce n'est pas quelque chose de tout simple. La vie, c'est une coévolution de la vie et de l'environnement. Mmh. Ça veut dire que notre évolution, notre cerveau, tout l'aspect neuroscientifique de la boîte qui nous régit là-haut, c'est 4 milliards d'années d'évolution sur une planète et un environnement.
Particulier, adapté à cet environnement, bien sûr.
Nous sommes le produit de notre planète, ce qu'on tend à oublier. Mais c'est exactement le cas. Ce qui veut dire qu'une espèce qui vient d'ailleurs, eh bien, ce sera la même chose.
Elle sera le produit d'un autre environnement.
De son autre environnement. Alors, est-il similaire, est-il différent? C'est ce qui va se passer. Maintenant, là où on a encore un autre obstacle, c'est que, encore une fois, nous sommes des débutants. Et il est, avec une technologie qui est assez primitive, il est quand même difficile de pouvoir faire la différence entre des signaux naturels et des signaux qui pourraient être des signaux répétitifs, par exemple, et qui ne le seraient pas. Un bon exemple, ce sont les répétitions qu'on entend en ce moment dans l'univers, les fameux radio bursts, je sais
les
pas
sursauts, les sursauts, les sursauts radio,
les sursauts radio, qui ont surpris tout au début. Ce que je veux dire par là, c'est que même d'un point de vue scientifique, nous sommes au tout début de la compréhension de notre univers, de sa physique, de sa chimie, de la manière dont il fonctionne. La plupart des choses que l'on va découvrir seront des choses naturelles. Et il faut encore qu'on démêle tout ça. Maintenant, on a un nouvel outil qui est très utile. C'est que notre cerveau, même si c'est un ordinateur qui fonctionne de manière un peu quantique, comme les neuroscientifiques le disent maintenant, c'est quand même quelque chose qui est limité et qui est capable de reconnaître très bien les schémas qui sont les nôtres sur Terre, mais peut-être un peu moins bien ce qui serait différent. Mmh. Alors vient à la rescousse l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, on peut entraîner des algorithmes, et pas seulement les entraîner à des choses qu'on connaît, mais on peut les mettre à faire le filtre de données qu'on reçoit, non seulement maintenant, mais en fait, revisiter les banques de données que nous avons acquises depuis des dizaines d'années avec les radiotélescopes, et les entraîner pour chercher des schémas que notre cerveau ne serait peut-être pas capable de
trouver. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un boulot considérable, que ça devrait nous rendre très humbles, puisque nous n'en sommes qu'au tout début de cette exploration. Mais ce que vous dites, c'est qu'on en est très loin, mais qu'on va y arriver. C'est une bouteille à la mer, Il y a énormément de possibilités, donc d'autres planètes, d'autres possibilités de vie possibles. On peut entraîner des machines à reconnaître peut-être des sons ou des signaux, des signaux qui nous sont très étrangers. Mais moi, je me pose encore une autre question, c'est-à-dire que même si on arrive à reconnaître des signaux qui nous sont étrangers, à démêler, on prend du temps et on comprend de mieux en mieux, il faudrait aussi qu'il y ait une sorte de concordance des temps. C'est-à-dire que cette intelligence ou ces autres civilisations extraterrestres, qu'elles puissent nous envoyer un signal qu'on soit capable, nous, de comprendre, de recevoir. Et
qu'on a peut-être déjà reçu.
Et qu'on a peut-être déjà reçu alors qu'on était incapable de l'entendre. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Non, complètement. Et c'est encore, ce que vous dites est parfaitement exact. Il y a encore quelque chose qui est plus effarant à l'échelle cosmique quand on y pense bien. Pensons simplement à notre civilisation. Où elle en était, cette civilisation, technologiquement, il y a 150 ans? Quelle était la façon la plus rapide d'aller d'un point à un autre? C'était le cheval le plus rapide que vous pouviez vous offrir. Il suffirait qu'on ait simplement 100 ans d'écart avec une civilisation extraterrestre.
Pour qu'on ne puisse pas s'entendre.
Exactement, pour ne pas savoir qu'on est les uns à côté des autres. Maintenant, même si on est concordant en technologie, il faut qu'on se regarde en même temps dans le ciel.
C'est ça.
Mais est-ce que c'est désespérant pour autant? Je dis non. Au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement fascinant et on est à l'aube de quelque chose de fantastique parce qu'on s'est mis en route. Et l'exploration, c'est ça. C'est le premier pas qu'on fait. La direction, on la connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est parce qu'on s'est mis en route, on va trouver une partie des solutions en cours de route, sur le chemin.
C'est le chemin qui vous intéresse.
C'est le
parce
chemin
que, qui à vous lire, hein, dans Voyage aux frontières de la vie, on se rend bien compte. Au début, je vous demandais est-ce que vous pensez qu'on trouvera de la vie, le temps.
Mais la destination,
on
la connaît pas.
Mais au fond, c'est ça. C'est ça qu'on lit dans votre ouvrage et dans votre vie et dans votre recherche, Nathalie Cabrol. C'est le chemin qui est intéressant. On ne sait pas où on va. On ne sait pas finalement tout à fait ce qu'on cherche, puisque la vie, on ne sait même pas vraiment ce que c'est. Mais on avance.
C'est l'intuition. Rappelez-vous Colomb. Il avait l'intuition qu'il y avait un continent. Quand il a découvert les Amériques, il pensait qu'il avait découvert les Indes. Il est parti en pensant qu'il y avait quelque chose là-bas. Il s'est mis en route, il a hissé les voiles. Il a trouvé quelque chose qui n'était pas ce qu'il attendait. Je dirais que c'est de la bonne science, parce que généralement, quand on a une question scientifique, généralement, au bout, ce n'est pas ce qu'on trouve, mais c'est parce qu'on a fait le chemin et qu'on a découvert d'autres choses. On est capable d'articuler des questions de plus en plus complexes. C'est ce qui va se produire. On s'est mis en route il y a quelque temps avec une question. Are we alone? Sommes-nous seuls? Cette question-là, elle a fait développer la radioastronomie. Frank Drake, les radioastronomes, SETI. L'astrobiologie est arrivée ensuite. On a commencé à aller chercher des exoplanètes. On les trouve. Les expéditions en milieu extrême sont arrivées et nous permettent de comprendre comment on survit dans des environnements qui ne nous sont pas tellement faciles pour nous, humains. Mais tout ça, d'un seul coup, différentes perspectives, c'est la multidisciplinarité et la richesse de cette approche avec différentes perspectives qui fait en sorte que plus on va avancer, plus on va avoir de données, plus on va être capable d'articuler la question de mieux en mieux. On ne sait pas ce que c'est que la vie, mais on avance.
On avance autour de la question, y a-t-il une vie au-delà de la Terre? Alors on l'a dit, Nathalie Cabrol, vous avez commencé avec la NASA notamment, par la chercher sur Mars, hein, ces autres formes de vie. Vous avez participé à la mission Mars Exploration Rover de la NASA. Vous avez choisi donc le lieu d'amarcissage, d'atterrissage sur Mars, c'était le volcan Gezou, c'est ça. Alors à ce sujet, nouvelle question pour vous, soulevée par mon confrère de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos.
Est-ce qu'aujourd'hui, elle participe toujours au choix de futurs sites d'exploration martienne, comme ça avait été le cas, je crois, pour le cratère Gusev? Et si oui, quels sont les endroits qui n'ont pas encore été visités par des sondes et qui seraient particulièrement intéressants à aller voir sur Mars dans le cadre d'une recherche d'une vie passée ou actuelle?
Votre réponse, Nathalie Cabrol.
Ma réponse, elle va encore s'accompagner d'un paradoxe.
Ouais.
Alors, j'ai effectivement, j'étais la personne qui représentait Gusev. Nous avons beaucoup travaillé avec mon mari à la préparation de ce site et nous avons eu la chance de pouvoir le voir depuis le sol et aussi de faire partie de l'équipe scientifique.
Donc, ce volcan Gusev sur Mars.
C'est un cratère d'impact.
C'est
un cratère d'impact, 160 km. Et il y avait déjà 15 ans de préparation scientifique avant qu'il soit sélectionné. Et ensuite, on a eu encore 15 ans d'exploration, pas dans Gusev, mais avec opportunité de l'autre côté. Gusev n'était pas seul dans notre étude. On avait un site de rechange au cas où, pour une raison ou une autre, on ne pourrait pas atterrir dans Gusev. Et le deuxième site, c'était Gale. Et je suppose que vous connaissez ce nom, qui est le site où aujourd'hui Curiosité est en train d'explorer. J'avais donc travaillé avec mon mari sur le second site, sur Gale Crater. Mais c'était notre site de rechange. Quand Gusev a été sélectionné, j'ai continué ma recherche dans la direction de l'astrobiologie. Je me suis intéressée plus aux expéditions dans les environnements extrêmes parce que je savais que du moment où on commençait à explorer l'habitabilité sur Mars, l'étape suivante, c'était la recherche de la vie. C'est donc pour ça que je suis partie explorer les milieux extrêmes pour savoir comment je pourrais aider la NASA à choisir des sites ou des techniques qui pourrait permettre de détecter la vie sur Mars.
De détecter la vie sur Mars, la vie passée ou des traces de vie.
Alors, pour répondre simplement à la question du choix des sites d'atterrissage, non, je ne m'en occupe plus. Mais par contre, ce qui m'occupe, c'est de comprendre quels sont les types de vie et les instruments, les techniques et les stratégies d'exploration pour la chercher sur Mars. Voilà, c'est ce qui m'occupe à l'heure actuelle. Et maintenant, pour répondre à la seconde question, qui sont, est-ce que les sondes ont visité tous les endroits pour chercher la vie? Non, bien entendu, non. On a envoyé 4 rovers. Et avec
c'est
le
ça,
chinois,
hein.
ça fait 5. Bientôt ExoMars, l'année prochaine, qui partira aussi. On est seulement dans 4 sites d'atterrissage. Et 3 des missions sont des missions de recherche d'habitabilité. Ça veut dire, c'est la caractérisation des habitats sur Mars. C'est ce qu'on a fait d'abord. Persévérance est le premier qui est parti chercher des biosignatures, des signatures de la vie. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier. Mais on l'a encore envoyé dans un ancien lac, dans un cratère. C'est encore cette école-là parce que, tout simplement, les lacs préservent des sédiments et les organismes qui tombent au fond des sédiments sont dans un environnement sans oxygène. Donc, on peut très bien conserver les traces de la vie comme des fossiles, par exemple.
C'est ça. Donc, du coup, on peut essayer de trouver les traces de vie passée. On a une autre question d'un de nos auditeurs.
Je voudrais terminer cette question. Il y a un paradoxe. Il y a un nouveau paradoxe. C'est qu'on partout, on sait que la vie, l'eau est nécessaire à la vie. Et sur Mars, il y a de l'eau. Elle est visible. Dans les calottes polaires, par exemple, ou dans la glace à la surface, et même quelquefois de temps en temps, saisonnièrement, des écoulements d'eau qui peuvent se faire. Alors pourquoi on ne va pas là ? Cela nous dit, venez, on est là, on est... C'est alors ça, tout simplement, c'est une question de ce qu'on appelle de protection planétaire. On sait aujourd'hui décontaminer, stériliser nos sondes spatiales, mais ça se fait d'une manière encore un petit peu primitive, au compte d'organismes par unité de mesure. Et donc, pour être sûr qu'on ne va pas contaminer Mars avec de la vie terrestre, on évite pour le moment d'envoyer ça dans les endroits qui sont pratiquement les plus intéressants pour la vie actuelle.
Donc finalement, et là vous répondez justement à la question à nos auditeurs, Prudence à Ivy, qu'on salue à Abomey-Calavi au Bénin, qui nous disait, est-ce qu'on n'a pas déjà contaminé finalement Mars ? Mais au fond, vous dites, on ne peut pas aller chercher de la vie là où il faudrait vraiment aller la chercher, de peur de contaminer.
Alors, ce qu'on a fait, je ne peux pas vous dire, on ne peut jamais dire jamais.
Ouais, ouais.
Tout ce que je sais, c'est que nous avons fait l'effort le plus intensif possible, du mieux que nous pouvons à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que déjà, lorsque les sondes partent, il y a très très peu de contaminants s'il en reste. Ensuite, il y a un transfert qui se fait dans l'espace. Bien entendu, elles sont protégées, mais c'est quand même un environnement particulier. Du moment qu'on atterrit sur Mars, dans un endroit où l'eau n'est pas présente, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la glace ou de l'eau liquide, proche de la sonde, Mars est un milieu stérilisant très rapidement. Il n'y a pas de couche d'ozone. Donc, vous avez des rayonnements très courts qui arrivent, qui sont des rayonnements soit UV, ultraviolets, soit des rayonnements cosmiques. Les sondes sont stérilisées en quelques jours à quelques semaines. Donc, du moment qu'on ne s'approche pas d'un endroit où il pourrait y avoir une contamination, parce qu'on sait qu'il y a des organismes terrestres qui seraient capables de s'adapter sur Mars.
Eh oui, c'est ça. On pourrait, nous, amener la vie sur Mars. Autour de la question, la vie est-elle possible ailleurs ? Est-ce qu'il y a des invariants, finalement ? Parce que vous dites que vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez, mais qu'est-ce que vous ne cherchez pas hors de notre système solaire ou dans notre système solaire ? Question soulevée pour vous par un autre formidable astrophysicien et grand humaniste, lui aussi. Tiens donc, ça va ensemble. Jean-Louis Lundsten, spécialiste de la météo de l'espace, du soleil et des aurores boréales, on l'écoute.
On a commencé un projet à Grenoble qui s'appelle COOL sur l'exobiologie et puis la recherche de la vie extraterrestre. Une des choses qui me trouble le plus à cause de ce que je fais, c'est... Enfin, il y a deux choses qui me troublent. Est-ce qu'on a des pistes pour savoir si le champ magnétique peut influencer l'émergence de la vie en dehors de la Terre ? Il y a de la vie sur Terre, il y a un champ magnétique. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une nécessité ? Et l'autre chose, c'est que j'ai commencé un projet de recherche sur est-ce qu'on peut détecter des exoplanètes à travers leurs aurores polaires ? Là, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avoir des télescopes suffisamment puissants pour arriver à les voir ?
Je ne sais pas si vous pouvez répondre aux deux questions de Jean-Louis Lundsten, mais en tout cas à la première, hasard ou nécessité, oui. Le champ magnétique.
Le champ magnétique est très important. En tout cas, sur Terre, il a été très important parce qu'il nous protège des vents solaires, il nous protège des rayonnements cosmiques et des rayonnements UV, ultraviolets, courts, qui dissocient l'ADN, pour nous, qui est la forme de transfert de l'information. Donc, il est primordial dans la préservation de la vie sur Terre. C'est une question intéressante pour Mars. Mars avait un champ magnétique, mais parce que la planète était plus petite, elle s'est refroidie plus rapidement, la dynamo s'est arrêtée, le champ magnétique a disparu, l'atmosphère a été balayée par les vents solaires, s'est érodée, et donc la surface a été exposée. Ce qui fait qu'on sait qu'à 3 milliards et demi d'années, s'il y avait de la vie en surface sur Mars, soit elle s'est adaptée et a disparu sous la surface, soit elle a disparu complètement. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a des lunes comme Europe ou Encelade. Il n'y a pas nécessairement des champs magnétiques qui existent ou même puissants ou suffisamment forts. Mais si votre vie, elle est sous la surface à des kilomètres de profondeur, à ce moment-là, il n'y a plus de nécessité de se protéger de quoi que ce soit. Sur Encelade et sur Europe, on sait qu'il y a une source d'énergie qui est provoquée par les marées gravitationnelles autour de Jupiter et de Saturne. Ces petites lunes sont déformées en permanence, donc ça crée de l'énergie. Il n'y a pas besoin pour la vie d'être à la surface pour avoir le soleil et attraper son énergie. Là, elles utilisent l'énergie du cœur de la Lune. Il y a de l'eau. C'est donc quelque chose qu'on connaît aussi pour la chimie de la vie. Enfin, elles ont tout ce qu'il faut et elles n'ont pas besoin d'un champ magnétique pour les protéger. C'est la question.
Ah, c'est-à-dire que donc pour l'apparition de la vie telle qu'on la connaît, nous, terrestre, enfin sur Terre ou sur une planète ou même voire sur une Lune, il faut absolument un champ magnétique. Par contre, il pourrait y avoir une vie souterraine totalement différente.
Complètement différente.
Même sur les lunes de Jupiter, qui est un autre laboratoire, finalement.
Absolument. Alors, la seule chose, par contre, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de bactéries terrestres qui utilisent des petits bouts de fer, des petits aimants, pour se diriger, pour faire tout un tas de choses. Et il n'y a pas qu'eux, même les oiseaux, etc. Mais quand on pense à des formes de vie primitives, elles utilisent un petit peu cet aimant qui est lui-même guidé par le champ magnétique. Ce qui veut dire que ce serait une forme de vie différente.
Et oui, voilà. Est-ce que... vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous l'avez dit, mais vous y croyez quand même, Nathalie Cabrol, de notre vivant, peut-être qu'on aura un petit signal, une petite trace de vie.
Ah, il y a deux choses. Le signal de E.T., par exemple, c'est une chose. La vie microbienne, c'en est une autre. Je pense qu'on est de mieux en mieux armés aujourd'hui pour trouver quelque chose dans le système solaire. Je dirais j'aime pas donner des dates parce que forcément, quand on est chercheur, c'est pas de la science exacte, c'est des prédictions et on n'aime pas ça. Et en plus, il peut y avoir une découverte demain qui change tout. Je veux dire une découverte technologique ou un instrument ou quelque chose qui change absolument tout. Mais je dirais que pour moi, dans la génération qui vient, je pense qu'on aura quelque chose dans notre système solaire. Parce que,
dans notre système solaire. Du côté de quoi, Titan
Que ce soit, je crois qu'on a des très bons candidats, que ce soit Mars, que ce soit Europa, Encelade ou Titan. Titan, on a une mission dans 10 ans qui s'appelle Dragonfly, la libellule, qui va aller faire un petit tour là-bas. Quoi qu'il arrive, on va apprendre des tas de choses qui vont nous aider à mieux articuler nos questions. Pour le signal, ça peut être n'importe quand. Et maintenant, quand j'entends les gens qui me disent « ça fait longtemps qu'on cherche », ça fait... 60 ans qu'on cherche.
C'est pas beaucoup, à l'échelle de...
C'est rien, c'est infime. Et alors, si on veut prendre un autre exemple, ça fait combien de temps qu'on cherche une cure pour le cancer? C'est de l'ordre du même ordre d'idées. Et bien entendu, on est aussi impatient d'un côté que de l'autre, d'avoir une solution pour des questions humanitaires d'un côté et pour des questions philosophiques de l'autre.
Et pour les deux, il faut rester humble devant cette quête infinie, ce voyage aux frontières de la vie, dans ce qu'il a de plus merveilleux, parce que c'est ça qui vous intéresse, Nathalie Cabrol. On continue de s'interroger en nous mettant, comme vous le faites, à l'écoute des autres vivants. Même si « I still haven't found what I'm looking for », vous adorez les U2 et nous aussi sur RFI. Sur RFI, I still haven't found what I'm looking for. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ce que vous cherchez. J'ai l'impression que vous voulez continuer à chercher. Et surtout, Nathalie Cabrol, en lisant votre ouvrage, donc aux frontières de la vie, moi, j'ai l'impression que la vie, vous ne cessez pas de la trouver, de la chercher, de la trouver partout. finalement.
Oui, alors, c'est une des grandes découvertes pour notre planète, c'est qu'en fait, la vie que l'on cherche partout et que pour le moment, on n'a pas encore trouvée, sur Terre, c'est le paradoxe inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore un seul endroit où on n'a pas trouvé la vie. Je veux dire que la vie, elle est partout, même à des kilomètres sous la Terre, dans des endroits impossibles qui ont une acidité phénoménale ou qui sont terriblement froids, qui sont bombardés par les rayonnements UV. Il y a toujours une façon dont la vie s'adapte. C'est pour ça que je dis toujours, en anglais, je ne sais pas si c'est tellement le même terme en français, mais je dis la vie, c'est une peste, parce qu'une fois qu'elle est installée, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est pour ça, quand vous regardez l'espace et les environnements qu'il y a, il suffit qu'elle ait démarré quelque part pour qu'elle soit toujours là. C'est pour ça que je dis que la vie, si elle est démarrée sur Mars, elle est toujours là.
Vous dites que la vie peut être toujours là sur Mars.
Oui, pas nécessairement en surface, parce que c'est pas vraiment possible aujourd'hui. Mais sous la surface, si elle a démarré, elle est là. La seule différence entre moi et mes collègues, c'est que je pense qu'elle est plus près de la surface qu'on ne le croit.
D'où vous vient cette... j'ai envie de dire cette niaque, je ne sais pas comment le dire autrement, excusez-moi, hein, mais c'est vraiment dans un très beau sens du terme, c'est-à-dire cette... parce que vous rayonnez ce que vous dites, vous le vivez jusqu'au bout, et vous avez des vraies convictions et une vraie humilité. D'où ça vous vient, ça, de...
De passer beaucoup de temps dans le désert. À justement essayer de comprendre ce qu'est la vie et comment la chercher. C'est une conviction qui vient d'années passées dans les Andes, dans l'Altiplano et dans le désert d'Atacama, et à marcher et à m'asseoir, à regarder des cailloux ou des morceaux de sel pendant des heures et à essayer de comprendre quelle est la logique derrière tout ça. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y en a une. C'est un des résultats de nos derniers projets où on se rend compte qu'il y a des schémas de distribution de la vie dans les milieux extrêmes. Et ça nous donne peut-être une clé pour pouvoir la chercher ailleurs, une clé universelle, et surtout pouvoir nous aider avec l'intelligence artificielle, parce que s'il y a une répétition des schémas de distribution de la vie, alors on peut peut-être essayer d'entraîner des algorithmes pour nous aider à la chercher ailleurs.
À chercher ailleurs la vie, que vous voyez, que vous vivez dans le désert. On n'a pas parlé de l'aspect vie intérieure, qui est aussi très important dans votre ouvrage. Merci infiniment, Nathalie Cabrol, d'avoir profité de votre passage à Paris pour faire escale chez nous, être en direct dans notre studio. Je rappelle le titre de votre ouvrage, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, Voyage aux frontières de la vie, qui est paru au Seuil. Et j'ai envie de dire que vous nous faites partager vraiment au cœur de tout ce qui fait la vie, notre vie, la vôtre, et puis celle qu'il y a peut-être ailleurs. Merci Nathalie Cabrol d'avoir été en notre compagnie. Vous revenez quand vous voulez, avec ou sans extraterrestre.
Oui, avec ou sans, de préférence avec extraterrestre.
Autour de la question sur Terre comme dans l'espace, demain suite de nos rediffusions estivales sous le soleil exactement, notre étoile pourrait-elle redevenir notre première source d'énergie? Piste de réponse forcément solaire et encourageante de notre invité Daniel Linco, éminent spécialiste de l'énergie solaire photovoltaïque, à redécouvrir donc dans cette saison estivale de rediffusion réalisée par Hugo Violas avec Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast Autour de la question, disponible sur toutes les plateformes et sur l'appli RFI Pure Radio. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.